Bonsoir à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver pour Parler Temps qui court. C'est tous les soirs une heure de conversation avec les artistes et ce soir, c'est avec Giuseppe Pennone.
Un tango, une danse, un baiser.
Ça y est,
je suis 21.
Ah ben, à vous voir arriver, on n'aurait pas cru que c'était si bien. Donc, voilà, ça résume quoi.
C'est vrai que le printemps, l'été, c'est formidable. On avait les mêmes tomates et les petits pois.
Parlez-t'en qui court.
Marie Richeux avec Giuseppe Pennone.
Au mois de mai 1969, je suis entrée dans la forêt du bois et j'ai commencé un parcours dans le temps, lent, pensif et étonné, attentif à la moindre forme renfermée dans le bois fluide. C'est alors que cette cathédrale est sortie du monde muet de la matière pour entrer dans celui de la sculpture et de l'utilisation poétique du réel. Entrer dans le bois, dans la forêt du bois, est un voyage dans le temps, dans l'histoire de chaque arbre et de chaque année de sa vie. C'est un des textes réunis dans votre livre « Respirer l'ombre » Giuseppe Pennone. Et si vous avez écrit ces mots en 1991, c'est parfait de s'en souvenir, presque 30 ans plus tard, au moment de découvrir votre dernière installation au Palais d'Iéna à Paris, « Matrice di Linfa », « Matrice de Sève ». C'est une installation à découvrir à l'occasion de la FIAC 2019, en collaboration avec votre galerie parisienne Marianne Goodman, du 15 au 24 octobre 2019. Tous les jours de 11h à 18h pour être précis. Bonsoir à vous, Giuseppe Pennone.
Bonsoir.
Soyez le bienvenu. Est-ce que vous voulez bien qu'on commence par un exercice de description? Hier, nous sommes allés avec Lucie Riandet, c'était le matin. Le magnifique Palais d'Iéna, qui est une architecture d'Auguste Perret, laissait rentrer comme ça par les sortes de mouches arabiées de béton la lumière. C'était un beau lundi matin de soleil. Et cette lumière, elle venait se poser sur au moins trois matières distinctes. Il y avait quoi? Il y avait du cuir. Il y avait du bois, il y avait de l'argile.
L'argile et la résine.
Et la résine. Est-ce que vous pouvez essayer de décrire pour les personnes qui nous écoutent, qu'est-ce qu'on voit dans cette immense salle du Palais d'Iéna de Paris?
Je crois que la première chose qu'on voit, l'architecture. C'est un espace qui est assez étonnant parce que c'est comme une église avec deux nefs. Il y a trois différents nefs, deux latérales qui sont avec de grandes fenêtres, avec une très belle lumière, et une partie centrale. Et quand on m'a proposé de faire quelque chose dans ce lieu, j'ai vu que les proportions étaient justes pour une œuvre que j'avais fait il y a 10 ans à la Cour Vitrée de l'École des Beaux-Arts. Mais dans ce lieu, elle change complètement. À mon avis, c'était une surprise très différente. Parce que il y avait un dialogue entre ces matériaux qu'on a décrits, cuir, bois, résine, terre cuite, et les matériaux de l'architecture, qui est du béton, mais c'est du béton qui est très organique dans sa comment il a été traité et aussi par la couleur qu'il a. Alors il y a les colonnes, c'est comme des arbres, des troncs d'arbres, mais comme les grains de la pierre, de gravier qui a à l'intérieur du béton a été poli doucement, et ça devient presque comme une écorce dans certaines parties. Alors je pensais qu'il pouvait y avoir un très beau dialogue entre les matériaux naturels du travail et le béton, la matière artificielle du bâtiment.
Alors une fois qu'on a vu cette architecture qui est en effet qui est remarquable et qui fait partie des choses à voir quand on entre, absolument, pour venir voir votre travail, on en y reviendra, Giuseppe Pennone, on voit autre chose qui est cette fameuse œuvre que vous présentiez il y a 10 ans et qui se révèle dans une nouvelle vie, dans une nouvelle possibilité. Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce que vous présentez avec cette œuvre-là?
Ben, on voit, je pense que la première chose qu'on voit, c'est les peaux, des peaux de vaches qui sont posées au sol. Et il y a un tronc d'arbre, qui est une moitié d'un tronc d'arbre, et qui parcourt toute la longueur de la nef. Ces troncs d'arbre, après, on découvre qui a été travaillé, a été creusé. Cette moitié du tronc d'arbre a été creusée et ça devient comme en suivant un anneau de croissance de l'arbre, elle a été vidée et ça devient la matrice d'une arbre quand l'arbre avait plus ou moins, l'arbre qui avait créé ce tronc avait plus ou moins 80 ans. Qui est la date de, c'est un peu l'hasard, c'est la date de
d'anniversaire
du bâtiment. Alors il y avait des coïncidences, l'espace, l'âge de l'arbre absent qui n'est pas là parce que j'ai enlevé le bois. Et il y avait ces coïncidences. Je pensais que c'était une œuvre qui était juste pour le lieu et comme ça, on l'a installé.
C'est intéressant que vous partiez d'abord des pots qui sont installés au sol, parce que pour en revenir aux teintes, et notamment aux teintes avec lesquelles joue Auguste Perret, il y a du rosé dans le béton qui travaille, oui. Quelque chose qui se rapporte justement à la carnation de l'humain, et là c'est la carnation de la bête, c'est le reste de la bête qui est au sol. Dans la précédente installation, il y a 10 ans, il y avait déjà le cuir.
Il y avait, quand je vais présenter ça à l'École des Beaux-Arts, il y avait seulement deux rangées de cuir, parce que j'avais pas pu avoir plus. Après, dans le temps, j'ai eu une quantité qui m'a permis de couvrir le sol pour plus ou moins 6 mètres pour 50 mètres de long, et qui est un peu la dimension, qui est la dimension de la nef. J'avais tout exactement pour le lieu, il attendait l'œuvre. Mais le cuir qui a enveloppé les bêtes, c'est un peu comme la matrice aussi. Alors il y a tous les éléments qui sont présents dans l'œuvre, et c'est des éléments qui parlent de la matrice, et la matrice c'est quelque chose qui est très important dans la sculpture, c'est un des éléments de la sculpture. On ne sait pas si c'est plus important la matrice ou la sculpture même. Et on peut penser que le geste du sculpteur sont la matrice de la sculpture. Si on parle de sculpture traditionnelle, modelée en terre glaise, c'est l'ensemble de gestes devient la matrice. Et dans le cas d'un arbre qui pousse année après année, chaque couche est la matrice de l'existence antécédente. Alors, creuser à l'intérieur d'un tronc d'arbre en suivant un anneau de croissance et en enlevant le contenu, on obtient une forme qui est renfermée. Un arbre qui n'existe plus là, mais qu'on peut imaginer qu'il est libéré de sa matrice même.
Et qui existe quelque part, qui existe notamment dans un espace poétique de l'utilisation du réel. Ça fait partie des mots que je citais, vos mots de 1991, Giuseppe Pennone. On parle pas de quelque chose qui est assez important quand même dans la vision de cet art, dans cette grande nef d'Auguste Perret au Palais d'Iéna, sont les branches. Les branches coupées quasiment régulièrement dans leur longueur et qui donnent un aspect à cet arbre-là un peu ébouriffé, en même temps un peu animal, un peu presque un peu fâché, un peu de l'ordre de l'éclair. Est-ce que vous pouvez nous dire d'où il vient cet arbre-là et nous expliquer pourquoi est-ce qu'il a tous ces petits bras?
Oui, la raison c'est parce que dans mon projet d'origine, j'avais pensé de pouvoir soutenir le tronc de l'arbre avec les branches même. Et après, je me suis rendu compte que pour faire ça, le travail aurait été très bas, parce que c'est un problème de dimension, de transport possible aussi, parce que le camion est seulement 2,50 m de large. Alors, il y a des raisons pratiques. Et si je faisais appuyer l'arbre au sol sur ses branches, il aurait été très bas. Et c'est pour ça que j'ai le soutenu avec des tiges en métal. Mais j'ai gardé les branches, et ces branches, ça c'est la raison qu'on a deux branches du tronc, première partie du tronc jusqu'au sommet, à ce qui était le sommet, et parce que j'ai cherché un arbre qui avait des branches jusqu'au sol. Ce n'est pas quelque chose de facile à trouver, parce que d'habitude on coupe les branches, ou bien si c'est dans la forêt et il perd les branches qui sont en bas à l'arbre. J'ai trouvé ça dans un parc naturel qui est au territoire français, au confin avec l'Italie, qui c'est la vallée des Merveilles, où il y a le Monte Bego, qui c'est un lieu où il y a 30 000 inscriptions rupestres. C'est un lieu assez extraordinaire, qu'on est entre l'Italie et la France. Et moi, j'étais en contact avec des boucherons pour la recherche du sujet que j'avais besoin. Et eux, ils m'ont indiqué d'aller voir dans ce pas, parce qu'ils travaillaient au moins dans ce lieu. Et il devait
élaguer un peu.
Et en contact avec les forestiers français. Et j'ai trouvé cet arbre qui était au bord d'une rue qui risquait de faire créer des dégâts si avec la neige il allait tomber. Et c'est comme ça cette idée, en tout cas, que l'arbre arrive d'une vallée qui s'appelle la vallée des Merveilles, pour moi, c'était une petite valeur à rajouter à l'œuvre.
Cet arbre, il n'est jamais qu'un témoin, on va dire, presque mineur de ce qu'a pu être la forêt il y a 3000 ans, 4000 ans. Et bon, Campine parle des chênaies du centre de l'Europe où vont les légions pour démolir les Germains. Il dit que les légions passent entre les racines. Des chênes qui sont au-dessus des chemins qu'on peut passer par-dessous, et il dit que ce sont des arbres qui sont contemporains de l'origine du monde. On a un rapport avec l'arbre qui est un rapport d'émotion, qui n'est pas forcément dans l'esthétique. C'est que je pense qu'à un moment donné, on a en nous, il y a en nous quelqu'un qui ressent cet arbre comme pouvait le ressentir celui des sociétés, même d'avant l'écriture. C'est-à-dire, c'est une présence. En plus, ils sont antérieurs à toutes les générations des hommes. Connaissable, c'est-à-dire qu'il y a un passé. Les arbres, ça se construit pas seulement dans l'espace, c'est aussi du temps, du bois, du temps. Et donc, je pense qu'on est, quelqu'un en nous est attentif à ça, le ressent quand on voit cet arbre. Il y a une ancienneté prodigieuse par rapport à notre propre espérance de vie. Quoi.
Je trouve ça assez beau la manière dont Pierre Liotagui dit il y a quelqu'un en nous qui se rend attentif aux arbres. Ça me fait penser, Giuseppe Pennone, à la manière dont vous décriviez l'arbre qui est contenu dans l'arbre et que vous dévidiez notamment pour l'œuvre que vous présentez. C'est un ethnobotaniste qui parle là du chêne blanc de l'Ardier en 2006 dans une série documentaire qui s'appelait Arbre, être remarquable. Alors ce quelqu'un en nous dont parle Pierre Liotagui qui est sensible aux arbres, est-ce que vous le décririez de cette manière-là? Est-ce que pour vous, Giuseppe Pennone, il y a quelqu'un dans Giuseppe Pennone, qui est sensible d'une manière particulière aux arbres?
Mais mon approche à l'arbre, c'est une approche de réflexion sur la sculpture. C'est pas une approche botanique, c'est pas une approche
savante,
sentimentale. Ça correspond mes premières œuvres que j'ai faites qui ont été créées un certain intérêt ont été des œuvres sur la croissance des arbres. Et j'ai vu l'arbre pas seulement comme une forme, mais comme une matière fluide dans le temps. Et qui pouvait être modelé, qu'on pouvait créer des formes avec sa croissance. Et j'avais mis une main sur un arbre pour faire un geste qui est le geste le plus simple dans la sculpture, qui est celui de prendre, par exemple, un bout de terre glaise dans ses mains et de laisser l'empreinte de sa propre main. Et dans, mais dans ce cas, c'était l'arbre même qu'il allait créer et fait, fait empreinte. Et j'avais fait le moulage de main en métal et je, que je mis à un arbre en croissance. Et à la suite de ça, il y a eu une réflexion, j'ai réfléchi au bois et j'ai pensé qu'on aurait pu retrouver la forme de l'arbre à l'intérieur du, de la matière bois. Et j'ai essayé avec un morceau de c'était une petite poutre de sapin, et je réussis à le faire, et là j'ai... ça a commencé cette histoire de découverte des arbres de la forêt qui sont dans la matière du bois.
D'ailleurs, c'est étonnant parce que c'est souvent que vous parlez des arbres ou du bois comme une matière fluide, vraiment comme quelque chose qui va à l'encontre de l'image qu'on peut avoir, c'est-à-dire l'arbre, c'est le truc qui bouge pas, c'est le truc très solide. Quand on pense à cette œuvre-là de Giuseppe Pennon, ce qu'il faut dire, c'est qu'une fois que le temps passe, une fois que l'arbre continue son œuvre de croissance, eh bien, la main, en fait, elle est comme dépassée par le bois qui a grandi autour. Oui, oui. Et vraiment, ça fait comme une sorte de boursouflure de bois autour de votre main. Mais peut-être que ce qu'il faut dire aussi, c'est que la manière dont vous regardez le bois et la forêt est aussi une manière de contraste. Au moment où vous entrez dans le bois, comme vous le dites dans vos textes, 1968-1969, c'est aussi une sorte de réaction à un milieu urbain que vous découvrez. Est-ce que pour vous, le bois, ça dialogue aussi avec la ville et sa modernité?
Ah, absolument, absolument. Moi, quand je dis rentrer dans le bois, en italien, quand on dit bois, bosco, le bosco, c'est aussi la forêt. Et au contraire, le bois, c'est le legno. Alors, c'est le. Mais c'est vrai que à l'époque, quand j'ai fait ces travaux, l'art était complètement urbain, dans le sens que les artistes travaillaient dans l'atelier et c'était une expression liée à la ville. Et moi, j'ai commencé à travailler avec des éléments de la nature en faisant des travaux directement dans la forêt, parce que c'était la réalité que je connaissais mieux. Et je pensais que ça pouvait devenir, ou bien mettre, éclaircir mes idées et mon identité par rapport au moment. Et je crois que ça a été, c'était juste parce que les gens ont compris ça. Mais les œuvres, j'ai fait des photos, et j'ai amené les photos dans la ville. C'est pas que les gens de la ville sont allés dans la forêt. En tout cas, disons que c'est resté complètement urbain. Le travail que je fais, c'est-à-dire j'ai dû l'amener à la ville.
Mais peut-être parce que la ville, c'est aussi pour vous dans votre trajet, Giuseppe Pennon, le moment où vous vous adressez aux autres. Souvent, vous parlez aussi Absolument. Des œuvres d'art comme d'un vocabulaire, comme d'une langue. Vous avez aussi une pratique de l'écrit qui accompagne votre travail artistique et aussi un endroit de communication, de compréhension. Ça veut dire aller vers la ville, c'est aller vers les autres, c'est être en mesure de communiquer avec eux?
Oui, absolument. C'est parce que c'était dans le contexte urbain qu'il y avait la discussion et la dialectique de l'art. C'était pas dans la forêt. En tout cas, la forêt qu'on connaît en Europe, c'est un contexte, c'est complètement anthropomorphe. C'est quelque chose qui est créé par l'homme. C'est pas comme l'Amazonie ou d'autres endroits qui ont un côté qui est indépendant l'existence humaine. La forêt européenne, c'est presque partout une forêt anthropomorphe, un paysage qui est créé par l'homme.
Ça vous arrivait déjà de travailler avec des arbres qui venaient justement de forêts dites plus à l'état sauvage, moins travaillées par l'homme, avec moins d'empreintes de la civilisation humaine?
Je pense pas, parce que moi j'utilise surtout du pour faire pouvoir faire ce travail qui est exemplaire sur un certain point de vue. C'est pas, je peux pas le faire avec n'importe quel essence. Je dois utiliser des conifères. Et les conifères sont, oui, on peut avoir peut-être une conifère américaine, ou, mais d'habitude c'est des conifères européennes que je trouve. Et c'est quelque chose de domestique.
Regarder une autre, c'est plus important quelquefois que regarder comme une espèce solitaire soi-même. On regarde une autre pour pas s'effacer de la solitude, mais c'est d'avoir des conditions de survivre même. Regarder une autre, c'est important, oui. Se pencher sur une autre plus que regarder. Connaître le plus, on peut dire, profondément possible une autre. Ou même dans la superficie, oui, oui. L'art est le système de se pencher sur une autre. C'est pas un système personnel, c'est un système de regarder, se pencher sur un autre, sur des autres. Oui, ça c'est absolument. Oui. C'est pour ça que parler de soi-même est très difficile et ennuyeux surtout.
C'est la voix de Mario Merz en 2002, au micro de Jean Dève dans les entretiens à voix nue. Cet artiste qui dit que l'art, c'est un système qui permet de se pencher sur les autres, que c'est pas un système qui a pour but de se regarder soi-même. Sinon, Mario Merz dit, je m'ennuierais. Je vous avoue que quand on est arrivé dans cette grande nef du palais d'Iéna, Giuseppe Pennon, on s'est dit qu'on n'avait pas le droit de marcher sur le cuir et que donc on pouvait pas se pencher sur le tronc et qu'on pouvait pas voir à l'intérieur. Alors, je sais pas si on a eu raison ou tort, mais en tout cas, c'est vrai que moi, j'avais envie de me pencher sur cet arbre-là. Est-ce que vous diriez que votre façon de travailler, le plaisir que vous y prenez, le sens que vous y prenez, c'est aussi dans ce geste-là, de vous pencher sur quelque chose?
On peut marcher sur le cuir.
Hein? Je ne savais pas.
Vous ne savez pas, mais vous avez respecté,
j'ai respecté.
l'espace délimité par les colonnes. Mais le propos, c'était justement de créer une possibilité aux gens de marcher, parce que ça fait partie de l'œuvre. Dans le sens, vous devez parcourir l'œuvre et vous faites un peu ce qui était le parcours de la sève à l'intérieur de l'arbre quand vous faites ça. Alors vous devenez partie de l'arbre même.
Du coup, j'ai trouvé plein de techniques. On est monté sur l'escalier, on voulait le regarder de haut, on voulait regarder la fève. Bon, j'y retournerai, je marcherai.
Parce qu'il y a, bien sûr, dans une œuvre, il y a toujours un aspect qui est un aspect général, non? Et après, on rentre dans les détails. Et là, il y a plein de détails à observer, si on veut. Déjà la résine, les terres cuites qui ont l'empreinte du corps humain. Alors, il y a le rapport du corps humain avec la forme de l'arbre. C'est une histoire qui a plusieurs aspects, plusieurs points de vue. Et oui, mais c'est vrai, je suis d'accord avec Mario Merz, que une œuvre d'art, c'est une communication de pensée pour créer une dialectique, pour créer un discours, pour créer une indication, une position d'une pensée vis-à-vis d'un autre. Et c'est dans cette position qu'il y a l'identité de l'artiste. Et je pense que c'est ce que chaque artiste fait quand il essaye de faire une œuvre, c'est d'arriver à se confronter avec la réalité, avec les autres, avec les idées des autres, et en dialogue ou en contraste, ça dépend de l'œuvre, mais c'est un problème de communication.
C'est intéressant que vous disiez cela, comme si l'œuvre d'art, elle est une forme de signalement, de dire « moi, ma pensée, elle est à cet endroit-là ». Elle est à cet endroit-là et à partir comme de ces coordonnées géographiques, je peux me tourner vers les autres ou je peux inviter les autres à venir voir comment moi je pense. Mais encore faut-il, Giuseppe Pennon, que vous ayez trouvé votre endroit. À quel moment de votre parcours vous vous êtes dit « c'est là que je pense. C'est comme ça que je pense. C'est à cet endroit-là que je pense.
Bah, ça, c'est probablement quelque chose d'instinctif. C'est comme essayer de communiquer avec les autres, non? C'est un besoin d'existence pour dire aux autres qu'on existe, non? Je pense que ça, c'est, on confie à l'œuvre aussi un désir très naïf qui est celui de la, d'échapper à la condition d'une humaine, de survivre à soi-même, sous un certain point de vue. Ça, c'est une pensée que peut-être c'est très instinctif, animal, c'est le problème de la survivance qu'on a dans chaque cellule de notre corps, et c'est transmis à une œuvre. Mais après, il y a tout un autre aspect qui est celui de la communication, du langage qui est dans l'œuvre. Et si le langage est nouveau et c'est une création nouvelle, ça permet une réflexion qui est peut-être toujours la même sur la réalité et les conditions de l'homme, mais et ça donne une nouvelle vie, un nouvel intérêt à cette réflexion.
Alors, quand vous dites que vous confiez à l'œuvre l'idée d'une survivance, qu'on le fait de manière comme ça assez animale et presque instinctive, pour reprendre les mots de Mario Mer, ça veut dire qu'on propose aux autres de se pencher sur nous. Alors quand on se penche sur l'arbre, quand on se penche sur cette matrice de sève que vous montrez en ce moment à Paris, on se penche aussi un petit peu sur Giuseppe Pennon.
Je pense oui, parce que c'est évident qu'il y a un intérêt aussi pour la personne qui a créé l'œuvre. Même si l'œuvre elle devient complètement autonome au bout d'un moment, parce que la valeur d'une œuvre, si c'est vraiment une valeur, il devient collectif, c'est une nécessité collective. Alors une œuvre, c'est là seulement le besoin lié à l'individu, elle n'arrive pas à créer une communication, elle devient quelque chose qui a elle devient une nécessité de la société, et elle perd l'individualité. Quand on regarde,
mais elle gagne tout son sens.
Oui, parce que quand on regarde une œuvre ancienne, non, on ne connaît rien, après tout, de Giotto, de Cimabue, ou de Piero della Francesca, ou bien si on regarde des repères archéologiques, on ne connaît rien sur les personnes, ou les peintures de la Grosciove. On connaît rien de la personne qui les a fait, à part peut-être la trace d'une main. Mais ce qui nous touche, c'est la surprise que ce peintre de Grosciove, je parle de Grosciove dans ce moment, ce peintre a la surprise du prince vis-à-vis de la réalité qui l'entourait, qui l'a transmis avec sa peinture, c'est des émotions. Alors, s'il avait écrit un texte, on pourrait pas le comprendre parce que l'écriture a changé énormément. Il a fait un dessin, il a fait une peinture, et ça nous permet de comprendre pas les raisons par lesquelles ça a été fait, mais la position que son regard avait vis-à-vis de la réalité qui l'entourait, l'émerveillement du monde qui l'entourait. Ça, c'est quelque chose que nous recevons après 30 000 ans. C'est assez extraordinaire.
Et oui, et cette émotion, en fait, pour reprendre vos mots, Giuseppe Pennon, elle vient du fait que, d'un seul coup, on se rend compte que le monde a besoin de cette peinture-là, ou a de la place pour cette peinture-là, ou a de la place pour ce tronc d'arbre coupé en deux et qui est dans le Palais d'Iéna. Vous disiez tout à l'heure, finalement, c'est comme si le Palais d'Iéna, il attendait le tronc d'arbre, ou comme si le tronc d'arbre attendait le Palais d'Iéna. Vous dites que s'il y a une œuvre d'art qui est bonne, qui est complète, elle trouve un endroit dans le monde qui l'attendait.
Oui, ça.
Et que nous, on est émus de ça.
Oui. On est aussi ému, probablement, j'espère, si l'œuvre n'est pas au Palais Iéna, mais parce qu'elle va pas rester pour toujours. Mais c'est vrai que après tout, à part tous la dialectique qu'il peut y avoir dans l'art, sur l'œuvre même, sur le langage de l'œuvre que l'artiste a utilisé pour produire l'œuvre, après tout ça, il y a un problème qui est de l'émotion. Et l'émotion que l'artiste a prouvé en faisant l'œuvre, ou le plaisir, ou l'excitation, tout ça, c'est quelque chose qui est ressenti par le public d'une façon très instinctive. Après, il y a une lecture qui est celle de l'histoire de l'art, du contexte, du moment culturel et des raisons par lesquelles la pièce a été faite. Mais d'abord, tout d'abord, il y a quelque chose qui est très instinctif.
Et ce deuxième temps de la compréhension, pour vous, il passe par l'écriture notamment, il passe par le dialogue avec vos contemporains, éventuellement avec la parole critique ou avec l'enseignement quand vous êtes au contact avec des étudiants?
Non, mais tout ça, ça fait partie de, c'est nécessaire pour la création de l'œuvre, mais après tout, s'il n'y a pas cette force dans l'œuvre qui est une force de merveillement ou d'énergie, on peut dire plusieurs choses, de vitalité qui se dégage de l'œuvre, l'œuvre n'a pas une vie autonome. Elle prend une vie autonome, c'est là sa qualité.
J'irai là où dorment les cimes, là où dorment les cimes, pour qu'on s'aime. J'irai là où tout s'illumine, là où rien ne s'abîme. Qu'on s'aime sur la montagne nue, je planterai un drapeau aux conquérants de l'inutile, aux conquérants de l'inutile. À main nue, je combattrai la nuit, si tu es, si tu es. Je ferai briller ma vie, je ferai briller ma vie, pour qu'on s'aime.
France Culture, par le temps qui court,
bien après les cimes.
Marie Richeux avec Giuseppe Pennone.
Bien après les cimes. Bien après les cimes. Je t'aime.
Mon idée centrale, c'est rencontrer un lieu ou découvrir un lieu de la mémoire qui se le déserte. Et dire à les gens l'importance énorme que le passé a dans notre vie et dans la vie des étoiles aussi, dans la vie de la Voie lactée, dans la vie de la matière. Toute la matière a un passé. Et ce passé, c'est plus présent que le présent, c'est plus important. C'est la force de gravité du passé, c'est la force la plus forte de la vie. Et avec cette démonstration de la matière, du cosmos, du désert qui conserve toutes les choses, et les films prennent peu à peu une espèce de lévitation en direction à la philosophie, à la métaphysique, et peut-être au mystique dans le sens plus général des mots,
parce que je ne suis pas religieux. Quand j'ai écrit les choses ici dans la maison, je m'avais aperçu que je commence à mélanger des éléments qui peut-être on peut arriver à cette film mystérieuse. Parce que dans le travail d'écriture, on peut avoir l'intuition, mais non la certitude de qu'est-ce qu'il passera parce qu'il manque les images.
C'est la voix du grand cinéaste chilien Patricio Guzmán. Je l'avais rencontré en 2011 pour l'émission Pas la peine de crier, Giuseppe Pennon. Quand Patricio Guzmán dit que finalement la force du passé, c'est la force la plus importante qui travaille notre présent, et que lui, pour ce film-là, Nostalgie de la lumière, il avait à la fois été regardé la manière dont la lumière des étoiles travaille un passé comme ça infini, mais aussi dont la poussière du désert est une sorte de miroir de ce rapport au passé. Vous avez quoi comme rapport à ça, en travaillant le bois, en travaillant la forêt, en travaillant même le métal, Giuseppe?
Le passé dans le bois, c'est évident, c'est enregistré, c'est quelque chose de visible. C'est pas seulement quelque chose d'abstrait, c'est quelque chose qu'on peut voir. On peut calculer les années de l'arbre, comme probablement on peut calculer les années avec l'analyse du carbone 14. Évidemment, c'est quelque chose de très important. Mais ce que moi, je fais un travail sur la matière, sur le matériau. J'essaie de révéler la forme de la matière, pas de donner forme à la matière avec un propos qui n'appartient pas à la matière même. Et ça, c'est un peu la position que j'ai toujours eue vis-à-vis de la sculpture, des possibilités de. Et j'arrive pas à faire un travail avec des formes seulement, en posant une forme sur l'autre. Je dois trouver une raison, une logique entre les différentes parties de l'œuvre. Et en travaillant la matière, on doit considérer, si on a cette approche à la matière, on doit considérer la matière comme quelque chose qui a une dignité, qui a une vie autonome. Et dans ce sens, il y a une extension du concept de la vie aux choses que d'habitude on dit inanimées, mais que avec aussi les couverts de la science d'aujourd'hui, on voit qu'ils sont vivantes. Alors on peut voir une pierre comme quelque chose de vivant, on peut voir l'univers comme un organisme. Alors il y a une extension du concept de la vie, et ça veut dire aussi un respect des autres éléments qui nous entourent. Et un respect qui, dans le sens qu'il ne faut pas violer, qu'il ne faut pas détruire d'une façon seulement pour s'approprier ou pour affirmer quelque chose qui a une nécessité très limitée ou personnelle seulement. Je crois que dans un travail comme celui de la sculpture, le rapport à la matière et la considération de la vie de la matière est très important. C'est quelque chose qui rejoint aussi l'ancien concept d'animisme qu'il y avait où l'homme considérait que tous les éléments de la nature qui l'entourait étaient animés. Et il fallait un respect. Et il y a Robert Graves, qui est un écrivain poète anglais, qui disait que la décadence a commencé quand a été possible d'éviter la peine capitale de quelqu'un qui coupait un arbre, qui pouvait payer au lieu d'avoir la peine capitale. Ça, c'est le début de la décadence. Sous un certain point de vue, c'est un paradoxe, bien sûr, mais on peut être d'accord dans le sens que détruire quelque chose sans une forte nécessité, c'est négatif pour l'homme même.
Justement, j'allais y venir, Giuseppe Pennon, en vous écoutant, je me dis, qu'est-ce que ce travail sur la matière, sur la vie, qui rejoint un peu ce que disait Patricio Guzmán, c'est la conscience de la plus petite composante aussi de ce que c'est que la vie, qu'il s'agisse des étoiles ou du sable d'un désert. Qu'est-ce que ça vous a appris sur la matière de l'homme, sur ce dont nous sommes faits, nous, les êtres humains?
Bah, sur les êtres humains, ce que je crois que c'est, si on considère notre réalité qui est très fugace, et la persistance qu'on peut avoir dans le monde, ça sera notre poussière. Et notre poussière, ça, elle va devenir de la pierre, probablement, ou pierre ou autre chose.
Mais ou c'est, sable.
Ou sable, ou végétal, et après encore, c'est une transformation, etc. Et c'est une appartenance à un corps, à un être qui nous dépasse, qu'après peut-être on a nommé de différentes façons selon les cultures, selon les moments. Mais c'est notre fragilité qui devient visible quand on fait n'importe quel travail, parce qu'on se confronte avec un temps et une mémoire qui dépasse l'existence de l'homme.
Dans ces textes-là, qu'il fait bon lire et relire, qui sont réunis dans un livre qui s'appelle Respirer l'ombre, il y a un moment donné où vous parlez de votre compréhension de la structure d'une rivière, et aussi en termes un peu géométriques, en termes d'horizontalité et de verticalité, de moments où quand on bascule au vertical, bah, on peut faire un geste poétique. Mais cette idée-là de comprendre la structure d'une rivière, comme si vous, votre travail, Giuseppe Pennone, et ça a été aussi une manière de comprendre le vivant. De le faire rentrer à l'intérieur de vous, à la fois d'une manière instinctive, mais aussi d'une manière de la compréhension.
Oui, c'est un travail. Moi, je fais le travail. En grande partie, c'est moi-même qui fais le travail.
C'est-à-dire, dans l'atelier, dans la fabrication, vous n'avez pas 15 000 assistants qui travaillent pour vous.
Non,
vous faites les gestes.
Non, j'ai une personne qui m'aide, mais c'est toute l'expérience de la matière, c'est moi qui la fais. Et aussi l'expérience, et par l'expérience du travail même, on a des compréhensions de la matière et aussi, ça dépasse aussi la chose. Par exemple, j'avais fait une œuvre qui était en granit. En travaillant ce granit, j'ai commencé à réfléchir à la similitude qu'il y avait entre la technique du travail en pierre avec ce qui se passe dans une rivière avec une pierre. Et parce qu'il y a des coups, il y a des frottements.
À savoir son érosion.
Il y a l'érosion qui est faite avec la sable et l'eau, et même chose on fait sur la pierre qu'on travaille. Alors il y avait une similitude du processus de la sculpture avec la rivière, avec l'action de la rivière. Et ça m'a donné l'idée de faire ce que j'avais cru imaginer comme une sculpture, la sculpture parfaite en pierre. Et ça a été d'aller chercher une pierre dans un fleuve, de remonter le fleuve jusqu'où il y avait une carrière, de prendre un bloc de la même nature de la pierre du fleuve et refaire exactement la forme de la pierre du fleuve. Et ça, c'était... Et moi, j'ai fait ça. J'avais deux cailloux, deux pierres, peut-être plus gros qu'un caillou, deux pierres qui étaient avec l'intention d'être parfaitement pareilles, égales.
Mais l'un poli par ce qu'on peut appeler la nature, en tout cas par le travail du vivant, par l'eau, par le vent, par le sable, et l'autre par l'œuvre du sculpteur.
Oui, exactement. Mais disons que l'œuvre parfaite était d'exposer la pierre que j'avais faite. Ça, c'était l'idée juste. Mais si je faisais ça, personne ne comprenait. Alors, pour faire comprendre le travail et l'idée du travail, j'ai exposé les deux pierres à côté. Alors là, il y a une compréhension autre. De cette pierre, on comprend qu'une pierre c'est artificiel, a été fait par l'homme et l'autre a été fait par le fleuve.
Mais on le comprend pourquoi ? Parce qu'on le voit ?
Parce qu'on voit le double. Et le double c'est quelque chose qui est presque pas possible en nature. Il y a toujours une différence entre les choses. Et dans cet étonnement du double, que c'est l'étonnement qu'on a vis-à-vis aussi de Gémeaux, c'est une possibilité de langage, d'expression et de communication.
Vous avez quoi comme rapport avec la création? Quand vous regardez cet étonnement, cet émerveillement, etc., c'est un émerveillement qui touche au divin ou c'est un émerveillement que vous laissez complètement à ce qu'on appelle le hasard de la vie, à la manière dont la vie s'est reproduite?
Ben, l'étonnement, c'est un peu les deux choses, probablement, mais il y a un étonnement que si on désire celui qui est lié à la matière, lié à la réflexion du travail, et la sculpture, pour moi, c'est une compréhension de la réalité qui m'entoure, et ça, c'est quelque chose que j'essaie de retrouver dans l'œuvre, ou bien de faire une œuvre qui permet un étonnement semblable à celui que j'ai reçu.
Vous vous souvenez de votre étonnement enfantin?
Pardon?
Est-ce que vous vous souvenez de votre étonnement enfantin?
Certaines choses, oui. C'était peut-être le vent qui bougeait des feuilles de peuplier et qui avait le son de la rivière. Et des choses comme ça, oui.
On va écouter Gilles Deleuze.
Il y a des moments où nous ne pouvons pas nous tromper quand nous disons « Ah mon Dieu, ça c'est nouveau ». C'est pas ce qui répétera cette nouveauté qui est intéressant. C'est que ce nouveau en tant que nouveau est la répétition déjà de tout ce qui m'y succède. Difficile de penser une nouveauté qui soit comme la répétition de tout ce qui va lui succéder. Le peintre Manet a peint beaucoup, beaucoup de nymphéas. Puis il disait, on croit que c'est le 10e nymphéa de Monet qui répète le premier, en le perfectionnant au besoin. Ben, c'est pas vrai, il disait, c'est le premier nymphéa de Manet qui répète tous les autres. De même, il disait, c'est pas la célébration de la prise de la Bastille qui répète la prise de la Bastille, c'est la prise de la Bastille qui répète toutes les célébrations futures. En d'autres termes, la production d'un quelque chose de nouveau, c'est la répétition tournée vers le futur, la répétition de ce qui n'est pas encore.
Tout à fait jubilatoire, c'est une archive de Gilles Deleuze qui était diffusée dans les émissions Les Chemins de la Connaissance, Variations sur la répétition, c'était il y a 2 ans je crois, sur France Culture, par Adèle Van Rett, Giuseppe Pennone, l'idée d'une répétition, de quelque chose de nouveau qui devient la répétition de ce qui n'est pas encore, donc une inversion de la manière dont on pense les choses habituellement. Peut-être pour vous faire parler de votre rapport à la matrice, l'exposition dont on parle et qui a lieu en ce moment à Paris utilise ce mot-là, quelque chose de matrice qui va donner lieu à d'autres choses qui vont lui être extraordinairement liées. Est-ce que vous pensez que quand vous avez fait votre premier arbre, on va dire les choses de cette manière-là, vous avez fait quelque chose de nouveau au sens où l'entend Gilles Deleuze? Quelque chose que ensuite... Attends, j'essaye de le faire dans le bon sens. Un arbre qui a été la répétition de ce qui n'était pas encore là.
Je sais pas, peut-être c'est quelque chose qui avait déjà été fait ou déjà été vu, mais qui n'appartenait pas au contexte de l'expression de
l'art
artistique. Or, c'est vrai que la matrice, c'est quelque chose qui permet la répétition d'une forme à l'identique. Et ça, c'est un caractère de la sculpture, c'est une prérogative de la sculpture. Mais l'identité, chaque identité est autonome. C'est une identité, chaque œuvre qu'on refait.
Quand bien même elle partage les mêmes matrices.
Oui, mais après, il devient des choses qui sont autonomes, qui ne sont pas, et qui c'est pas possible de les intégrer une avec l'autre. c'est comme notre corps. On a le côté droit miroité dans le côté gauche. Il y a toujours besoin d'une symétrie et d'un reflet pour créer une identité commune. Si les objets restent séparés l'un de l'autre, ils ont chacun sa vie autonome. Et ça, c'est un caractère qui fait de la sculpture et qui est beaucoup moins dans la peinture. On peut refaire la même peinture, mais c'est jamais, si c'est fait à la main, c'est jamais pareil, c'est toujours différent. Dans la sculpture, il y a cette possibilité de refaire la une Vénus ancienne plusieurs fois. Et on peut
mais ce qui vous intéresse, vous, alors qu'est-ce qui vous intéresse le plus, Giuseppe Pennone? C'est le moule ou c'est l'autonomie de toutes les sculptures qui vont sortir de ce même moule?
C'est le deux, mais non, c'est les possibilités. Moi, j'essaie de ne pas refaire beaucoup d'œuvres à partir du moule. La moule est la partie la plus secrète, la plus intime de la sculpture. C'est la chose qu'il faudrait préserver et qui souvent est détruite. Et ça, c'est quelque chose qui fait partie d'une idée de génésie qu'il y a dans la sculpture et qui nous ramène à notre existence même, à l'idée de la vie, de la naissance. C'est aussi l'idée de l'absence. Il y a quelque chose, quand vous regardez le vide qu'il y a dans la moule, il y a une absence. Et l'absence, ça nous fait réfléchir encore une fois sur notre existence.
L'absence ou le manque, vous diriez que c'est la même chose? Parce qu'on peut aussi considérer que c'est quelque chose qui manque.
Non, c'est pas quelque chose qui manque, c'est une absence. Parce que
pour vous, c'est quelque chose qui est là ailleurs. Oui. C'est pas quelque chose qui manque dans l'absolu.
Non. Non, parce que dire quelque chose qui manque, ça veut dire qu'il y avait une unité. Mais la moule n'a pas besoin de cette unité. C'est deux choses détachées. C'est la moule est le négatif et il y a le positif. Le positif, après, il est autonome de la moule. Alors, c'est pas une manque pour la moule.
Est-ce que c'est la raison pour laquelle vous vous êtes tourné massivement vers la sculpture, Giuseppe Pennone? Cette espèce de, comme ça, d'intérêt ou de fascination pour la question de la matrice? Parce que vous pratiquez aussi le dessin, vous pratiquez d'autres choses, mais c'est quand même ça qui est le plus fort dans votre travail artistique, c'est la sculpture.
Oui, c'est la sculpture parce que c'est quelque chose qui est lié au tact, au toucher, à la compréhension de la réalité à travers, pas seulement les yeux, mais avec les mains. C'est quelque chose qui... parce que la vision, elle peut être fausse, dans le sens qu'on peut y avoir des perturbations dans la vue ou bien de malentendus de la vue vis-à-vis de la réalité. Pour comprendre si une surface est brillante parce qu'elle est mouillée ou parce qu'il y a un vernis, on touche. Et ça, c'est déjà un exemple de comment la vue est limitée. Et je dirais quelque chose en plus sur ça. Du moment qu'on considère de rétablir des conventions dans l'art, comme ce qui s'est passé dans les années 60 et 70, il y a eu une expression qui était privilégiée dans la sculpture plutôt que dans la peinture. Parce que dans la peinture, il y a une convention qui est celui de la forme du tableau, c'est celui d'une certaine matière qui est posée sur la surface. Au contraire, la sculpture est complètement, c'est quelque chose de différent. Si vous, je fais un exemple stupide, hein, mais si vous dessinez une table, le dessin de la table, c'est un dessin, c'est pas une table. Mais si vous faites une table, la table, ce qui est un objet sculptural, si on considère, elle est d'abord une table, avant d'être une sculpture. Et alors il y a un problème là que c'est à considérer. C'est quelque chose aussi qui concerne le problème du ready-made, cet aspect-là. Mais c'est une grande différence. Et je crois que dans ces années-là, il y a eu une réflexion sur une attention à la sculpture, parce que c'était un moment où il y avait une redéfinition des conventions dans la culture, pour la compréhension du réel, qui avait évolué d'une façon très rapide par rapport aux années qui précédaient la guerre.
Alors, quid des mots dans cette histoire-là? Quand vous dites, finalement, on fait un dessin d'une table, bon, ça n'est qu'un dessin. En tout cas, c'est un dessin avant d'être un dessin de table. Si on fait une table, bah, c'est d'abord une table, et puis après, c'est éventuellement une sculpture. Alors, qu'est-ce que c'est que le mot table dans toute cette affaire?
Qu'est-ce que c'est le mot?
Bah oui, qu'est-ce que c'est? Il y a le dessin, il y a la table, et puis il y a le mot.
Et le mot table, c'est un son. Quelque autre chose.
C'est un merveilleux mot de la fin, en tout cas. Merci beaucoup, Giuseppe Pennone. On peut voir en ce moment Matrice di Linfa jusqu'au 24 octobre. C'est du 15 au 24 octobre dans le cadre de la FIAC 2019 et avec la collaboration de la galerie Marianne Goodman qui représente votre travail. Et puis, je ne sais pas si ce sera disponible pour les gens cette édition, vous savez?
Mais ça c'est petit.
Oui.
Oui, ça, je crois qu'il a été donné aux visiteurs, je pense.
Ben voilà, je leur souhaite parce que c'est très très beau. Il y a un texte et puis il y a une grande frise de photographie qui s'étale. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Con una rosa hai detto venimi a cercare. Tutta la sera io resterò da sola e io per te muoio per te. Con una rosa sono venuto a te, bianca come le nuvole di lontano. Come la notte amara passata in vano, come la schiuma che sopra il mare spuma. Bianca non è la rosa che porto a te.
À la prise de son, c'était Guillaume Ledieu ce soir, à la réalisation Lise-Marie Barré. Par les temps qui courent, c'est Lucie Riandet, Jeanne Aléos, Romain de Belguilièvre, Marianne Chassor et Lou que vous viez cette semaine. Dans un instant, 22h et le journal sur France Culture. Très belle soirée à toutes et à tous.
Gialla non è la rosa che porto a te. Sospirano nell'aria le rose spirano. Petalo a petalo mostrano il colore, ma il fiore che da solo cresce nel rovo, rosso non è l'amore, bianco non è dolore, il fiore è solo il dono che porto a te. Rosa come un romanzo di poca cosa, come la resa che affiora sopra il viso, come l'attesa che sulle labbra pesa. Rosa non è la rosa che porto a te. Come la porpora che infiamma il mattino, come la lama che scalda il tuo cuscino, come la spina che al cuore si avvicina.
rossa così è la rosa che porto a te. Lacrime di cristallo l'hanno bagnata, lacrime vino versate nel cammino, goccia su goccia perdute nella pioggia, goccia su goccia le hanno asciugato il cuore. Portami allora, portami il più bel fiore, quello che duri più dell'amor per sé. Il fiore che da solo non specchia il rovo, perfetto dal suo cuore, perfetto dal dolore, perfetto dal dono che fa di sé.